Bonsoir à chacun. Je vous invite à ouvrir la Bible dans la deuxième lettre de Pierre. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er. Ce sera notre texte d'introduction, car nous aurons quelques autres passages à lire juste par la suite. Et j'aimerais qu'on puisse répondre à une question en lisant ce passage. Ça va nous donner une piste de réponse. Sur quoi s'appuie notre foi ? Sur quoi est-ce que nous appuyons notre foi ? Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 16. Voilà ce que Pierre explique par rapport, lui, à sa foi, par rapport à son enseignement, sur quoi il le fondait. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Au verset 18, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. » Sur quoi est-ce que nous appuyons notre foi ? Nous voyons que Pierre, lui, il appuyait sa foi déjà sur ce qu'il avait pu voir, sur ce qu'il avait pu expérimenter de la présence de Jésus en chair et en os à ses côtés, mais pas seulement ceci. Il dit au verset 19, « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, la parole qui a été donnée par les prophètes, l'écriture qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et peut-être même certains évangiles à cette époque, on ne sait pas exactement si c'était le cas, s'ils avaient déjà des morceaux d'évangile. En tout cas, lui, il avait le message de l'Évangile dans le cœur, ça c'est sûr. Et ce qui est important de savoir, c'est que Pierre avait lui-même expérimenté cette foi appuyée sur la vie de Jésus, sur l'enseignement de Jésus, et il voulait que les personnes qui suivaient son enseignement puissent aussi bénéficier de cela, puissent avoir pas seulement des fables, pas seulement des histoires que les uns et les autres se racontaient, mais une parole certaine. Et c'est ça qui va être l'objet de notre attention ce soir. Des paroles certaines, quatre paroles certaines en particulier, qui nous sont données dans la Bible, qui nous sont données par un autre apôtre, c'est l'apôtre Paul, qui a dit certaines choses, et qui nous encourage à fonder notre foi, qui nous encourage à enraciner notre foi dans ces choses-là, dans des vérités bibliques. Où est-ce que nous allons trouver ces paroles ? C'est dans Timothée. Dans Timothée, première épître de Timothée, nous vous envoyons une première. En fait, il y en a cinq qui sont données par l'apôtre Paul, mais on va en voir que quatre. Vous m'excuserez et vous chercherez quelle est la cinquième. Ça vous fera un travail à faire à la maison. 1 Timothée chapitre 1er et le verset 15. Il est dit ceci, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Je voudrais m'arrêter déjà sur ce premier verset qui est dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Je crois que dans notre monde dans lequel on vit, il y a tellement de choses qui bougent, tellement de choses qui sont variables, tellement de choses qui sont inconstantes, qu'on a besoin, nous, d'être focalisés sur des choses qui sont éternelles, qui sont fixes, qui ne vont pas bouger. La parole de Dieu, une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Déjà, le mot « certaine », quand on l'étudie, on se rend compte que c'est le même mot que « fidèle ». Quand il s'agit des hommes, c'est quelqu'un qui est qualifié de ce qualificatif en grec, il est appelé « fidèle ». Bon et fidèle serviteur, c'est ce mot-là. Mais quand il s'agit de la parole, c'est certain. Ça veut dire que cet adjectif, c'est quelque chose dans lequel on peut mettre toute notre confiance, qui mérite toute notre approbation, dans lequel on peut fermer les yeux et se plonger totalement. Je pense qu'on a besoin des mots comme ça, parce que comme je le disais, notre monde est tellement dans cette variation. Je pensais à la valeur, par exemple, de l'argent, l'euro. Quand on regarde les graphiques, on voit qu'il fait toutes sortes de courbes. Et quand on achète dans une monnaie, on n'est pas sûr que le lendemain, ça sera en bénéfice pour nous. Il y a eu toutes sortes de choses qui prennent place. Quand on regarde le temps est tellement changeant. Vous êtes d'accord ? La météo nous dit qu'il va faire beau, et puis finalement, il ne fait pas beau. Il va pleuvoir, et puis finalement, il fait soleil. On ne sait pas tellement à quoi s'attendre. Quand on regarde à notre gouvernement, les lois qui sortent, on a l'impression des fois qu'ils ne font que reprendre d'anciennes lois, qui sortent des poussières des archives d'il y a 30 ans en arrière pour refaire des lois. Je pensais au service militaire, vous savez, en ce moment, ils sont en train de réfléchir. Est-ce qu'il ne faut pas revenir au service militaire ? Et il y a tellement de choses dans l'école, des choses qu'on enlève, qu'on remet, puis qu'on re-enlève, qu'on re-remet, et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Quand on regarde la mode, moi je ne suis pas la mode, mais je me rends compte que un jour, on peut être dans la mode fabuleuse, et puis le lendemain, on est déjà totalement démodé, et puis le surlendemain, on est à nouveau dans la mode si on n'a pas bougé. C'est tellement compliqué qu'on n'arrive pas à s'y retrouver. Et dans la Bible, on voit que c'est un problème qui existait aussi, quand on voit l'humeur du peuple d'Israël dans le désert. Vous avez remarqué ? Est-ce que ils étaient dans la fermeté spirituelle ? On voit qu'ils étaient un petit peu changeants, hein ? À un moment donné, ils étaient dans la murmure, dans la critique. Puis l'instant d'après, ils étaient dans l'adoration, la louange. À un moment donné, ils sont dans la crainte devant la montagne en feu. Ils sont là, tremblants dans la présence de Dieu. Et puis l'instant d'après, ils dansent devant le veau d'or. Tellement changeant. Voilà pourquoi je crois que nous avons besoin d'avoir une parole certaine. Et il y en a quatre qui sont données là, qui sont là pour nous encourager, pour nous vraiment nous enraciner dans la présence de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Et c'est quelque chose qui doit nous faire du bien ce soir, qui doit nous encourager. Quand on regarde les quatre paroles certaines que l'apôtre Paul a dit, qu'on va étudier du moins ce soir, on voit cette première parole qu'il a, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et c'est une parole entièrement digne d'être reçue. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Ça veut dire que ce n'est pas comme une prophétie où on doit retenir ce qui est bon et enlever ce qui est mauvais. C'est que là, on doit tout accepter, 100%, on doit l'accepter. Même si on n'est pas d'accord, on doit l'accepter. C'est ça que ça veut dire, entièrement digne d'être reçu. Ce n'est pas un slogan, malheureusement, dans notre époque, on est dans des slogans qui tapent comme ça la conscience, des slogans qu'on va répéter sans réfléchir à ce qu'on raconte. Ce sont des paroles certaines. Et c'est ces paroles-là que le Seigneur voudrait nous communiquer. Alors oui, Jésus est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier, a dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il va nous donner ses paroles, ce n'est pas seulement des choses qu'il a entendues parler, ce sont des choses qu'il a lui-même expérimentées, qui sont enracinées dans sa propre vie et qui font que cette foi qu'il veut nous communiquer, c'est quelque chose que lui-même, il a déjà vécu. Et il a vécu, quand on voit ce passage, on voit qu'il a vécu la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu qui sont venus l'intercepter sur le chemin de Damas, alors qu'il avait des projets de meurtre, des projets méchants de persécution, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu l'a arrêté. C'est ce qu'il dit quand on regarde le verset 13 par exemple, on peut lire le verset 12 même, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. » Littéralement, il m'a été fait miséricorde. Là, on a l'impression que c'est à force de le chercher que Paul a obtenu miséricorde. Non, il lui a été fait miséricorde. Dieu lui a fait miséricorde. Dieu le cherchait, alors que lui était dans cette ignorance, comme il le dit. Et ce que ça doit nous dire, cette parole certaine, c'est surtout que Dieu est celui qui nous sauve, mais Dieu est celui qui nous transforme aussi. Et il transforme même le pire des pécheurs. L'apôtre Paul prend son propre exemple pour nous montrer que même à lui, ça lui a été fait la grâce. À combien plus forte raison ça doit être fait à chacun d'entre nous. Et il n'y a aucun péché qui est dans notre vie que Dieu ne peut pardonner si nous venons avec un cœur repentant. Il n'y a aucune difficulté qui est là dans notre vie, quelque chose, une routine mauvaise que nous avons pris, une habitude mauvaise qui a pris place dans notre vie et que Dieu ne va pas pouvoir pardonner, dont Dieu ne va pas pouvoir nous délivrer. Dieu est celui qui est puissant, puissant pour sauver. La preuve en est, c'est qu'il a donné son Fils. Jésus, Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont l'apôtre Paul est le premier. Lui qui était un blasphémateur, il est devenu quelqu'un qui a reçu la révélation de Dieu. De manière incroyable, quand on voit le nombre de lettres qu'il a écrites dans le Nouveau Testament. Lui qui était un persécuteur, il est devenu quelqu'un qui faisait du bien. Quelqu'un qui amenait l'amour de Dieu autour de lui. Lui qui était un homme violent, il avait cette douceur, même pour reprendre quelqu'un qui était dans le péché, mais le reprendre avec douceur, avec amour. Et son exemple doit nous encourager à se dire que si nous avons besoin d'une transformation dans notre vie, Dieu est capable de la faire. Et le problème, ce n'est pas la taille du péché qui est dans notre vie. Le problème, ce n'est pas la grandeur de la faute qui est là, dont on n'arrive pas à se détacher. Le problème, c'est qu'on puisse laisser notre cœur ouvert à la grâce et à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est justement que Dieu ne me traite pas selon comment il devrait me traiter, selon la condamnation que je devrais recevoir. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Et la grâce de Dieu, c'est que Dieu me donne ce que je ne mérite pas d'avoir. Dieu me donne plus. La grâce de Dieu, on le voit au verset 16. « J'ai obtenu miséricorde afin que Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité. » Et une autre version dit « La grâce de notre Seigneur » au verset 14, pardon, c'est « La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » La miséricorde, d'un côté, la grâce de Dieu. Est-ce que nos cœurs sont ouverts ce soir à cette grâce, à cette possibilité que Dieu a de nous transformer encore? Est-ce que vous êtes arrêté de grandir? Est-ce que vous vous dites, j'ai assez grandi dans ma vie chrétienne, maintenant ça suffit, je reste comme ça? Ou est-ce que vous avez envie que le Seigneur puisse encore vous transformer? Je crois que la plus grande transformation, la plus belle transformation qui a lieu dans notre vie, c'est quand on se donne au Seigneur, la première fois. Mais ça continue tous les jours de notre vie. Il y a tous les jours quelque chose que le Seigneur nous enseigne à modifier, à corriger pour que nous puissions marcher dans sa vie. Mais cela n'est possible que parce que nous laissons la grâce et la miséricorde de Dieu. Comment elles sont la grâce et la miséricorde de Dieu? Quelle taille elles ont? Infinie grandeur de la richesse de la grâce de Dieu. Il y a toutes sortes de versets qui me viennent à l'esprit qui nous montrent que c'est quelque chose d'éternel, de grandiose. Mais si nous laissons notre cœur ouvert et que nous laissons la grâce et la miséricorde prendre place en nous, je crois qu'il n'y a rien qui pourra empêcher que nous puissions être transformés. Première parole certaine, Dieu est venu sauver les hommes et est venu transformer même le pire des pécheurs. Je pensais à l'exemple d'un jeune homme avec qui je parlais la semaine dernière qui me disait que il voulait absolument s'engager dans les eaux du baptême, mais il avait un problème, il fumait, il n'arrivait pas à se détacher de cette cigarette. Il était là, il avait abandonné, certaines fois il avait jeté tous ses paquets, et puis il avait racheté un nouveau, il en avait jeté un nouveau, et il y avait un vrai combat dans son cœur, et puis un jour il a vraiment décidé. Il a dit, Seigneur, maintenant je choisis de m'engager avec toi. Je sais que je ne le mérite pas, je sais que je suis un homme pécheur. Il y a eu tout un combat dans son être, mais un jour il a pris position pour le Seigneur Jésus. Et il s'est fait baptiser, et il n'a plus jamais touché à la cigarette. Parce que la grâce et la miséricorde de Dieu ont été reçues dans son cœur. Et le Seigneur Jésus est capable de nous transformer. Je crois ce soir qu'il y a des personnes qui sont restées dans... Il y a un péché qui est là, qui est latent de leur vie, dans lequel ils croient qu'ils ne pourront jamais le surpasser. Mais vous ne pourrez jamais le surpasser, ça c'est sûr. Mais la grâce de Dieu pourra le faire à votre place. C'est la parole que le Seigneur voudrait, sur laquelle vous puissiez vous appuyer. Il faut se laisser transformer par la grâce de Dieu. Deuxième parole, elle se trouve au chapitre 4 de 1 Timothée, et au verset 8. Chapitre 4, verset 8. « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Amen. Deuxième parole certaine, c'est qu'il nous faut saisir la vie éternelle. Il y a une double bénédiction dans la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir quelque chose de la part de Dieu dans la vie présente déjà et dans la vie à venir. Je ne sais pas si vous avez remarqué que des fois, certaines personnes sont focalisées sur la vie à venir. Dans le ciel, on va chanter. Il y en a qui connaissent que ce chant, par exemple. On a l'impression qu'ils ont la tête dans les nuages tellement ils sont dans le ciel. Et les choses, le bon sens de la vie de tous les jours les empêche de marcher de manière équilibrée. Et puis, des fois, on a des personnes qui, eux, sont totalement cartésiennes, pas matérialistes, mais tellement cartésiennes dans les choses de Dieu que c'est vraiment l'obéissance, presque le légalisme qui est là, qui les empêche de connaître la spiritualité, le côté surnaturel de la présence de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans la vie. Le Seigneur nous dit qu'il faut les deux. La vie éternelle, c'est la vie présente, dans notre vie présente, et la vie à venir. Bien sûr, quelle grâce c'est de savoir que dans le ciel, nous serons avec Jésus, que notre éternité, ce sera auprès du Seigneur Jésus. Quelle grâce de savoir que déjà sur la terre, le Seigneur est avec nous. Et nous pouvons connaître les prémices de cela. Saisir la vie éternelle. Mais quand on regarde exactement ce qu'il est dit, on va l'expliquer parce que vous avez vu avec moi. Ce qu'il est dit, c'est que nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Et quand on regarde encore en détail ce qu'il est dit, c'est dit comme ceci, « À cela, nous travaillons en effet et nous combattons, en mettant notre espérance dans le Dieu vivant. » Cette parole est certaine, « À cela, nous travaillons et nous combattons. » À cela, mais c'est quoi à cela? À nous exercer à la piété. Nous travaillons et nous combattons pour que notre piété puisse faire des progrès, comme c'est de cette manière que nous saisissons la vie éternelle. Je vous pose une question indiscrète, allez. Quand vous regardez la semaine dernière, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes efforcé, où vous avez peiné, où vous avez trimé, si on peut dire comme ça, où vous avez travaillé avec ardeur pour faire quelque chose? Quand vous regardez la semaine dernière, alors ne me répondez pas, répondez-vous à vous-même. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il y a un moment donné, moi je me souviens quand je travaillais dans l'usine où j'étais avant, j'avais un moment donné, c'était un travail de surveillance, mais il y avait des moments où il fallait nettoyer des brûleurs, et là c'était des trucs en fonte de 10 kilos, l'endroit où c'était, il faisait 50 degrés, on était en tenue de protection maximum, donc il faisait très chaud, il y avait un bruit infernal, on avait des gants qui nous venaient jusqu'aux avant-bras, il y avait 10 brûleurs, c'était des conditions difficiles. Et quand en plus dehors, il y avait le soleil qui tapait fort, je ne vous raconte pas l'histoire. Ça, c'était un travail, et c'est exactement cet effort-là qu'il est dit. Nous travaillons et nous combattons. Il y a cette dimension de faire des efforts. Peut-être que cette semaine, la semaine dernière en tout cas, vous avez trimé ou travaillé pour faire du sport. Peut-être. D'ailleurs, la Bible n'interdit pas, elle dit c'est utile à peu de choses, mais c'est utile à quelque chose quand même. Peut-être que vous avez trimé dans votre travail qui est physique, comme c'était mon cas à certains moments. Peut-être que vous avez combattu dans la prière pour quelqu'un. Ça, c'est déjà mieux. Ça se rapproche déjà plus de ce qui est dit dans ce passage. Quand on se souvient d'Épaphras, à un moment donné, Paul dit « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières ». Et je crois que ce qu'on a fait juste avant, c'est exactement ça. Peut-être que vous n'y pensiez pas, non, j'ai pas eu l'impression de faire tous mes efforts. Peut-être que le Seigneur, justement, vous dit, mais fais tous tes efforts, travaille à combattre dans la prière pour tes frères et pour tes sœurs. Peut-être que c'est en témoignant à quelqu'un, vous avez combattu un combat. Ah, bien sûr, en apparence, vous n'avez pas fait des efforts infabuleux, mais dans votre cœur, il y a véritablement un combat qui était là pour que cette personne puisse entendre la bonne nouvelle. Pour nous qui prêchons, quand nous prêchons, c'est un combat aussi. Et j'espère que nous y mettons toute notre ardeur. Et je crois que c'est ce que nous voulons faire et que le Seigneur nous aide à le faire encore davantage. Peut-être quelqu'un va dire, mais non, moi je ne fais jamais d'efforts, je n'ai pas besoin. Mais le Seigneur vous invite ce soir, au moins à faire cet effort-là, à vous exercer à la piété dans votre vie de tous les jours. Si vous voulez saisir la vie éternelle, c'est Dieu qui offre la vie éternelle. Mais il faut que vous travailliez à la piété. Combattez à ce que vous ayez une véritable piété, un amour pour Dieu bien sûr, mais une crainte pour Dieu également. La piété, il y a ces deux aspects qui sont là. L'amour de Dieu, ce désir de plaire au Seigneur et cette crainte d'obéir à ce que le Seigneur nous dit. Dieu me sauve et me transforme, mais Dieu me demande aussi de saisir la vie éternelle. Et dans 2 Timothée chapitre 2, nous voyons la troisième parole qui est certaine, qui peut être un appui pour notre foi. 2 Timothée 2, verset 8, on peut lire. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Troisième parole certaine, qui est peut-être un peu plus difficile à entendre que les autres, c'est qu'il nous faut souffrir pour le Christ. Dans notre vie, ça arrivera à un moment donné, ça arrive peut-être déjà, que nous traversions des moments de souffrance pour le Christ. Je ne parle pas des moments de souffrance que tous les hommes traversent. C'est le lot de tous les hommes de souffrir. Quand on vient au monde, il y a quelqu'un qui souffre pour nous. Et quand on s'en va dans l'autre monde, c'est dans la souffrance qu'on le fait. Certaines fois, ce n'est pas le cas, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et en tout cas, tout le temps de notre vie, on connaît des temps de joie, mais des temps de souffrance. Est-ce que le fait de souffrir, simplement, ça nous donne une récompense dans le ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Je parle de quelqu'un qui est dans ce monde, qui ne connaît pas forcément le Seigneur. Est-ce que parce qu'il va souffrir, il va obtenir quelque chose de la part de Dieu? Non. Alors quelqu'un va me dire, mais peut-être c'est parce qu'il n'est pas au Seigneur, mais moi je suis au Seigneur, donc toutes les fois où je vais souffrir, le Seigneur va me récompenser. Est-ce que c'est le cas aussi? Non. Je pensais à l'exemple de Marie, la sœur de Moïse, à un moment donné. On peut dire que Marie, elle était sauvée, elle a fait une expérience avec le Seigneur, mais à un moment donné, elle va parler contre son frère. Pour certaines raisons, elle va parler contre son frère, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle fut frappée de lèpre. Est-ce qu'elle souffrait pour le Seigneur? Non. Elle souffrait à cause de son péché. Et souvent, même quand on est au Seigneur et qu'on fait des choses mal, on souffre à cause des conséquences du péché qu'on a laissé entrer dans notre vie. Peut-être qu'on souffre, mais on souffre dans la volonté que ce n'est pas Dieu qui ait la gloire, mais c'est nous qui l'obtenions, comme les pharisiens le faisaient. Eux, ils jeûnaient, mais après, ils disaient à tout le monde qu'ils jeûnaient. Ils montraient qu'ils avaient un visage triste, ils montraient que c'était tellement dur. « Ah, ça fait 40 jours que je jeûne, vous comprenez, là, je ne peux pas vous aider. » Pourquoi est-ce que nous souffrons? Est-ce que c'est pour obtenir la gloire auprès de nous? Je crois que quand on veut souffrir pour le Seigneur, disons, ce n'est pas nous qui voulons souffrir. Quand le Seigneur permet que nous souffrions, c'est parce que lui nous le demande, pour nous permettre d'aller plus loin, pour nous permettre de vivre quelque chose de sa part. On voit que l'apôtre Paul, c'est quelque chose qu'il connaît. Souviens-toi de Jésus-Christ, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. L'apôtre Paul, qui avait connu ces moments où il prêchait à de grandes foules, qui avait connu ces moments où il arrivait à convaincre les uns les autres, à amener des âmes au Seigneur, il se retrouvait là, enfermé en prison. Il se retrouvait là. Il aurait pu se sentir inutile. Il aurait pu tomber dans le désespoir. Il aurait pu se dire que sa vie ne servait plus à rien. Mais il y a beaucoup des lettres qu'il a écrites, c'était en prison qu'il a faites. Et il a dit cette parole. La parole de Dieu n'est pas liée. Si moi je suis en prison, si je suis emprisonné, la parole de Dieu n'est pas liée. Et je crois que son cœur se réjouissait toutes les fois où il avait des nouvelles, des églises où il avait pu parler de Dieu, des églises qu'il avait pu implanter, là où il avait pu mettre des anciens, et qui progressaient par la grâce de Dieu, la parole de Dieu qui était à l'œuvre. Cet apôtre Paul qui était là en prison, qui les encourageait par ses lettres, il continuait à travailler. Et il acceptait la souffrance du Seigneur, parce qu'il pensait que c'était Dieu qui lui avait appelé à cela. Et l'apôtre Paul avait compris l'attitude qu'il fallait avoir. Il y a deux attitudes qu'on peut avoir face à la souffrance. Elles sont dites ici. On peut mourir à nous-mêmes, on peut persévérer dans la souffrance, ou on peut renier le Christ et être infidèle. n'y a que ces deux attitudes, quand on connaît le Seigneur, bien sûr. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce danger que de renier le Seigneur. Ah, vous allez me dire, mais moi je ne renie pas le Seigneur, je viens tous les dimanches à l'église, toute la semaine, à toutes les réunions, je suis là. Mais on peut renier le Seigneur dans nos paroles, et on peut renier le Seigneur dans nos comportements, dans notre manque d'obéissance. Et le Seigneur nous le dit, qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il ne va pas faire un détour pour aller nous chercher si on est sur le chemin de la mort. Seigneur nous dit, voilà le chemin de la vie, marchez-y, ne te détourne ni à droite ni à gauche, c'est là qu'il te faut marcher. Et si nous voulons ne pas être reniés, il faut que nous venions dans sa présence en demandant pardon. Seigneur, je vais me repentir, je vais te demander pardon parce que je me suis détourné. Mais ce qui est magnifique, quand on choisit la bonne voie, quand on choisit de marcher dans la souffrance en mourant à nous-mêmes, en persévérant malgré tout, en disant « peu importe ce qui m'arrive, peu importe comment les gens se moquent de moi, peu importe ce qui est dit de moi, la réputation que j'ai, c'est pour le Seigneur que j'agis. » Si on choisit cela, le Seigneur nous promet une gloire éternelle. On pourrait lire ce passage qui me vient à l'esprit dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Parce que des fois, dans la souffrance, on a tendance à nous décourager. Et l'apôtre Paul, qui connaissait, qui a connu tellement d'occasions où il aurait pu se décourager, c'est lui qui nous dit au verset 16, 2 Corinthiens 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Amen. Quand nous marchons dans la souffrance parce que le Seigneur nous demande d'y marcher, nous devons avoir du moins cette bonne attitude de regarder à la gloire éternelle que le Seigneur nous réserve. C'est bien dans ces moments-là de chanter dans le ciel, dans le ciel. Voilà ce qui va se passer dans le ciel. C'est bien de s'encourager à savoir que toutes les fois où on se moque de moi, le Seigneur me bénit. Le Seigneur me prépare quelque chose. Si ça, c'est ici-bas, tant mieux. Si c'est, ça sera en tout cas dans le ciel de manière sûre. Bien sûr, on ne veut pas courir après la récompense, mais on a cette certitude, cette parole certaine, encore une fois, que quand on traverse la souffrance, le Seigneur nous promet une gloire éternelle. Et la quatrième parole certaine, elle se trouve dans Tite, donc c'est juste après, alors c'est juste avant 1-2 Timothée, Tite, juste après 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 8. Tite 3, 8. Tite 3, 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. On voit par la suite qu'il y a toute une discussion, qui est tout un encouragement qui est fait pour éviter les discussions folles, les généalogies, les querelles, etc. Toutes sortes de discussions qui ne mènent à rien sont inutiles et vaines, ce qu'il est dit. Mais il est dit, par contre, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes que ceux qui ont cru, les croyants, qu'ils doivent s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Ça nous invite à entrer dans le service pour Christ. Il nous faut souffrir pour le Christ, d'accord ? Mais il nous faut aussi servir le Christ. Il nous faut servir notre Seigneur. Il nous faut avoir cette attitude de cœur de dire, Seigneur, tu m'as tellement aimé, tu as tellement manifesté ton amour envers moi, ton amour est éternel, est immense, que en le recevant, je ne peux pas le garder pour moi, il faut que je me mette à te servir. Quand nous avons cette claire vision de l'amour de Dieu dans notre vie, alors forcément, ça amène quelque chose. Quelque chose de pratique, je veux dire. Si je vous dis, par exemple, je prends un exemple concret. Si je vous dis, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Si je vous dis, j'aime le TFC, j'aime le foot, vraiment, c'est ma passion, le football. Mais le TFC en particulier. Bon, vous me dites, ah bon, mais c'est bien. Mais c'est qui ton joueur préféré ? Ah ben, par contre, je connais pas le nom des joueurs. Hein. Bon, mais c'est quand au moins le prochain match ? Ah ben, je suis désolé, je connais pas du tout le calendrier. des matchs. Mais bon, j'aime le TFC. Hein. Bon, mais le stade, comment tu le trouves? Il est moderne, il est bien, c'est confortable. Ben, en fait, j'y suis jamais allé. Bon, alors, c'est quoi les couleurs de l'équipe au moins? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Ben, que j'aime pas le TFC. Parce que j'y connais rien. Vous êtes d'accord? C'est clair. Et c'est vrai en plus, j'y connais rien. Mais combien de fois est-ce qu'on n'agit pas de la même façon avec le Seigneur? On peut dire qu'on aime le Seigneur. Ah, qu'est-ce que j'aime le Seigneur? Et puis, quand on nous pose des questions, quelqu'un dans la rue peut-être nous pose une question sur la parole, ça y est, on est perdu, on n'y connaît rien, il y a des notions qui nous manquent. Quand il s'agit de passer du temps dans sa présence, eh bien, on n'en pense pas finalement. On passe les quelques minutes, les quelques heures à l'église, ça suffit pour retenir notre communion, et puis la semaine, on s'occupe pas du Seigneur. Est-ce que des fois, on n'agit pas de la même façon? Oui, quand il s'agit des choses de la vie courante, là, ça nous prête à rire. Mais quand il s'agit de notre communion avec le Seigneur, est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus sérieux? Quand il s'agit de dire qu'on aime le Seigneur, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le faire de la bonne manière? Et à dire, Seigneur, oui, devant ton amour éternel, je ne peux pas dire que je t'aime si je ne me mets pas à te servir. Tu l'adoreras et tu le serviras. L'adorer, c'est avoir vraiment cette révélation de Dieu, de son amour, de sa grâce, de toutes ces dimensions magnifiques du Seigneur, ces qualités merveilleuses. Mais tout cela ne peut pas me laisser indifférent, c'est obligé que je me mette à le servir. C'est obligé que je commence à m'y intéresser vraiment. C'est obligé que je commence à connaître les prophètes qu'il y a dans la parole, etc., les histoires de la Bible. C'est obligé que ces choses commencent à me toucher véritablement. Je ne peux pas dire j'aime le Seigneur et puis ne pas m'intéresser à tout cela. Une parole certaine, c'est que je dois servir le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas simple la parole? Est-ce que vous trouvez que les quatre paroles certaines sont compliquées à comprendre? C'est quelque chose de tellement simple. Mais je crois que si nous mettons véritablement notre foi de la bonne manière dans ces paroles, si nous fondons notre foi sur chacune de ces paroles, si nous étudions notre vie à la lumière de ces versets et que nous essayons de nous remettre en question par rapport à cela, je crois que le Seigneur pourra nous bénir. Je crois que le Seigneur pourra nous faire grandir. Je crois que le Seigneur pourra nous rendre inébranlables. Et quels que soient les temps que nous allons traverser, qui ne vont pas aller en s'arrangeant, je crois que le Seigneur va nous permettre de marcher à sa lumière. Vous vous souvenez ce qu'on a lu dans 2 Pierre. Faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Faites bien de prêter attention à cette parole certaine. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Je ne sais pas si vous avez fait attention. 2 Pierre 1, verset 16. Nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à connaître la puissance et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est quand on connaît le Seigneur, oui, on veut connaître sa puissance. Je crois qu'on veut connaître ce moment où il va venir nous chercher. C'est exactement ce qui est dit par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait devant lui des personnes qui n'observaient pas la vérité, qui enseignaient toutes sortes de doctrines mauvaises. Mais lui leur a dit, attachez-vous aux paroles certaines. Ce soir, je vous ai donné quelques petites paroles, mais qui sont la parole de Dieu. Que nous puissions les faire nôtres, les méditer et nous laisser travailler par ces paroles. Et nous laisser que Dieu révèle en nous ce qu'il a besoin d'être révélé. Je vais prier le Seigneur tout simplement, en lui demandant sa grâce sur chacun de nos cœurs. Éternel, oui, nous croyons que ces paroles sont certaines. Ta parole est la vérité. Ta parole est la seule qui peut affranchir les cœurs, Seigneur. Ta parole est la seule qui peut nous sanctifier aussi. Ta parole est la seule qui peut nous sauver. Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Tu vois, ces quelques paroles que nous avons pu lire, Seigneur, nous te demandons que tu puisses les graver au fond de nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, étudier, sonder nos cœurs à cette lumière, afin que nous puissions voir, Seigneur, ce qui va, ce qui ne va pas dans nos cœurs, et agir en fonction, Seigneur, nous repentir s'il y a lieu, ou, Seigneur, nous affermir s'il n'y a pas lieu de nous repentir. Merci, Éternel, parce que tu nous donnes de vivre notre vie enracinée, fondée sur ta parole. Ce qui fait que, quelle que soit la tempête qu'il peut venir, nous avons ces fondements inébranlables. Seigneur, nous ne craignons rien. Merci pour ces paroles certaines, dignes de confiance, qui méritent que nous imitions toute notre foi, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas être ces hommes qui doutent, qui sont semblables à la mer, semblables à l'océan, qui est constamment en mouvement. Non, nous voulons être des hommes fondés, enracinés dans ta parole, enracinés dans cette vérité que tu es venu nous sauver, tu es venu pour nous transformer, Seigneur. Même si nous sommes le pire des pécheurs, Seigneur, tu es capable de nous transformer pour faire de nous un serviteur. Comme l'apôtre Paul, tu l'as pu le faire pour lui. Fais-le, Seigneur, pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est là enfermé dans son péché, qui semble n'avoir plus espoir, Seigneur, permets-lui d'être délivré à la réception de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur, oui, aide-nous à saisir la vie éternelle, à travailler, à combattre pour la piété, à combattre pour les frères et sœurs dans la prière, à combattre, Seigneur, pour que notre vie, Seigneur, puisse te plaire encore davantage. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette bonne attitude dans la souffrance, à ne pas murmurer, à ne pas regarder en arrière, mais à regarder à toi, à cette gloire éternelle que tu nous réserves, à ces récompenses que tu as préparées pour tous ceux qui souffrent pour ton nom, Seigneur. Et aide-nous, Éternel, à te servir. De tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur, de toute notre force, aide-nous à te servir avec joie. Aide-nous, Seigneur, à ne pas te servir parce qu'il faut te servir, mais à le faire avec joie, avec, Seigneur, ce bonheur, cette grâce de comprendre que tu nous as sauvés, mais en plus tu désires te servir de nous, Seigneur, pour ta gloire. Ô Jésus, combien nous sommes bénis, combien oui. Nous sommes remplis de reconnaissance face à cet amour si puissant, face à cette grâce si grande, face à cette gloire éternelle, Jésus. Bénis, Seigneur, les cœurs de mes frères et de mes sœurs ce soir et aide-nous à marcher tous ensemble d'un même cœur, Seigneur, sur ta voie, sur ton chemin, sur le chemin de la vie que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni. Amen.